Le journal en français, Adia Tipoukou.
Bonsoir, à Bounia, contrairement à toute attente, le centre de transit de Harou ne pourra pas accueillir les 400 miliciens annoncés pour la démobilisation. Les responsables du CONADER parlent des problèmes logistiques. Le point dans cette édition. Une soixantaine d'hommes d'affaires belges viennent de boucler leur mission d'une semaine en RDC. Ils affirment qu'ils vont rester présents dans le secteur économique congolais malgré les conditions difficiles. Vous entendrez dans ce journal les explications de M. Jérôme Roux, attaché commercial de l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Fin du calvaire des passagers du bateau MB Makwala en Mbandaka. Après 2 semaines de déluge sur le fleuve Congo, ils ont finalement accosté dans cette ville grâce à un pousseur de la MONUC. Mesdames et messieurs, bonjour. Le centre de transit de Harou butait à des difficultés. Il ne pourra pas accueillir aujourd'hui le premier groupe de 400 miliciens sur les 4 000 annoncés. Les responsables de la CONADER, Commission nationale de démobilisation et réinsertion, expliquent ce problème par le manque de moyens logistiques. Les détails de Harou avec Jolene Balivoto.
Initialement prévu pour ce samedi, l'ouverture du centre de transit de Harou est reportée pour le lundi 21 mars prochain. Commencé le lundi dernier, les travaux de construction de ce centre devraient normalement prendre fin ce vendredi. Suite à la forte pluie de la nuit dernière et à quelques difficultés liées aux problèmes logistiques, ces travaux ont dû prendre un peu de retard. Selon la CONADER, il faudrait tout d'abord installer l'électricité, de l'eau, acheminer les vivres, construire des latrines et construire également un centre de santé pour assurer le soin de santé de ces ex-combattants. Toujours selon la CONADER, ce 4 000 miliciens destinés à être démobilisés dans le territoire de Harou, à l'heure actuelle, seuls 2 700 seulement ont accepté de rendre leurs armes et à intégrer le centre de transit. Depuis Harou, Jolene Balivoto, Radio Okapi.
L'ex-chef d'état-major des FAPC à Harou vient de lancer un appel à tous les miliciens de son groupe. Dans un message audio parvenu depuis Harou à Radio Okapi, M. Malou leur demande de rejoindre les sites de désarmement et de réinsertion communautaire. Il rappelle à tous les miliciens que le programme de DRC sous l'égide de l'ONU prend fin le 1er avril. Il est temps que les groupes armés réintègrent soit la vie civile, soit l'armée nationale pour la reconstruction du pays, a-t-il déclaré. On l'écoute.
J'appelle tous les combattants de notre mouvement à déposer les armes et à rejoindre les sites de transit pour suivre les DRC. Tous les combattants isolés qui sont à Harou et dans les territoires à déposer leurs armes à l'entrée du site de transit pour pouvoir bénéficier du DRC. Dans quelques jours, le programme DRC qui est ouvert depuis 7 mois va s'arrêter. Le site de transit d'Harou constitue la dernière chance pour tous les combattants de se joindre au processus de réconciliation nationale et de participer à la reconstruction du pays. Rejoignez-moi à Harou et ensemble, associons-nous au processus de paix. J'appelle les autres groupes armés de l'Ituri à suivre le FAPC et à participer au programme DRC pour prendre part à la reconstruction nationale.
Des propos recueillis par Mamie Alili Chibangu. Cap sur Goma, où le président de la commission électorale indépendante est arrivé ce samedi. L'abbé Malou Malou devrait lancer officiellement la campagne de sensibilisation sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Le numéro 1 de la commission électorale indépendante se dit optimiste quant à la réussite de cette opération sur toute l'étendue de la province. Ceci en dépit de l'insécurité qui prévaut dans certains coins de la province du Sud Kivu. Abbé Malou Malou au micro de Charles Ntirisha.
Nous sommes venus pour dire à tous ceux qui savent lire et écrire de commencer déjà à bien maîtriser la loi portant identification et enrôlement des électeurs, d'expliquer aussi à tous ceux qui ne savent pas lire, pour que tout le monde sache comment cette opération va se passer. Le train des élections est en marche. Nous sommes venus embarquer les habitants du Nord Kivu dans ce train. Nous venons de désigner tous ceux qui vont travailler dans les bureaux techniques et administratif au Nord Kivu. Nous pouvons vous annoncer avec joie que l'équipement de ces bureaux est déjà commandé. Dans les jours qui viennent, les bureaux seront réellement opérationnels. Troisièmement, le matériel pour l'identification et l'enrôlement des électeurs est déjà sous appel d'offres. Sur la sécurité, je pense qu'on ne peut pas viser une sécurité maximale. Sinon, ça deviendrait un alibi pour ne pas faire les élections.
L'abbé Apollinaire Malou Malou doit quitter le chef-lieu du Nord Kivu dès ce soir pour se rendre à Kindu en passant par Bukavu pour la même mission. Une soixantaine d'hommes d'affaires belges viennent de boucler une mission économique d'une semaine en RDC. Ces hommes d'affaires devraient étudier les possibilités d'investir au Congo. Cette mission rentre dans le cadre du programme triennal de promotion des exportations belges. Malgré les conditions quelque peu difficiles, la Belgique reste présente au Congo avec une cinquantaine d'entreprises. D'autres investisseurs pensent même y revenir. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus ces hommes d'affaires. Cependant, on ne peut seulement faire les affaires et se limiter aux bénéfices comme ailleurs dans le monde. En RDC, il faut intégrer la dimension sociale dans les affaires. Explication avec Jérôme Roux, attaché économique et commercial à l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Il est au micro de Pelé Kipelamondo.
Il faut faire preuve de créativité ici au Congo. Il y a beaucoup d'opportunités, notamment du côté des bailleurs de fonds, mais il faut tenir compte de la réalité congolaise et notamment de la réalité sociale. Il faut jamais oublier que 75% de la population au Congo vit avec moins d'un dollar par jour. Ça, c'est une donnée de base. Dans de nombreux contrats, il peut être intéressant, même d'un point de vue très réaliste, d'intégrer une notion, un aspect social. Ça permet d'avoir accès à des fonds dont on n'aurait pas accès s'il n'y avait pas cet aspect-là. Et j'ai des cas concrets, je ne peux pas dévoiler le nom des sociétés. Et là, c'est un véritable investisseur, c'est quelqu'un qui veut venir avec un outil ici, il veut produire ici localement, et qui a intégré notamment la mise au travail de filles mères ou d'enfants soldats, d'enfants déplacés. Ça lui donne accès à des fonds auxquels il n'aurait pas eu droit s'il n'y avait pas cette dimension sociale.
S'agissant toujours de la Belgique, sachez qu'elle vient de mettre à la disposition de la coopération technique belge un montant de 95 000 euros. Ce fonds est destiné au financement des projets d'appui aux initiatives locales à Kananga. Pour ce faire, la coopération technique belge a organisé hier vendredi au bâtiment administratif un atelier provincial pour valider les nouveaux projets. Comment sera réparti ce fonds? La réponse avec Julien Yamouini.
Selon Henri Bodonost, coordinateur du projet, les fonds seront affectés essentiellement dans le secteur de l'éducation, de la santé et de la voirie et drainage. Il a également indiqué que ce sont des groupes vulnérables qui seront le plus touchés par ce projet. Pour sa part, Pascal Chitoka, vice-gouverneur en charge des questions politiques et administratives, a souhaité que ce nouveau projet puisse couvrir l'ensemble de la province du Kassa occidental. Il a également fait remarquer que les populations des zones rurales sont les plus vulnérables que dans les zones urbaines. Il est donc indispensable, a-t-il indiqué, que le projet soit orienté également dans toutes ces zones rurales. La coopération technique belge a financé plusieurs projets dans la ville de Kananga et ses environs depuis 2003. Les secteurs de l'éducation et de la santé ont été bien servis. Julien Nyamweni, Kananga, Radio Okapi.
Restons toujours dans le chapitre économique, mais cette fois-ci au Sud Kivu, où les cigarettes sans vignette se vendent de plus en plus. Ceci malgré la décision des autorités interdisant la vente et la circulation en République démocratique du Congo des cigarettes qui ne portent pas des vignettes fiscales. Les entreprises tabacicoles du Sud Kivu, qui se sont déjà conformées à cette décision, accusent l'Office des douanes et assises, OFIDA, de ne prendre aucune mesure pour décourager cette situation qui leur porte préjudice. Ces entreprises affirment également qu'elles ont des difficultés à écouler leurs marchandises. Les détails avec Broy Munganga.
Selon nos informations, jusqu'à ce jour, seules les sociétés Chenimed, Tabac Congo et Supermatch se sont conformées à cette décision de munir leurs cigarettes des vignettes fiscales. Des cigarettes importées en petite quantité et qui sont exposées dans différents points de vente de la province échappent encore au contrôle de l'OFIDA. C'est le cas, par exemple, des cigarettes marques Marlboro, Dunhill, Gitane, Elite, Yes, Supermentol, Benson & Edge, etc. Pour l'OFIDA, le problème qu'il rencontre est qu'on ne trouve aucune maison de représentation de ces marques de cigarettes ici à Bukavu. Elles sont donc écoulées en désordre par des vendeurs non répertoriés. Ceci crée, reconnaît l'OFIDA, une situation de concurrence déloyale sur le marché en défaveur des opérateurs économiques qui se conforment déjà à cette nouvelle taxe qui frappe les tabacs en République démocratique du Congo. En effet, sur le marché, ces cigarettes non timbrées se vendent à des prix défiant toute concurrence. Exemple, un carton de 25 fardes de cigarettes importé et non timbré des marques Elite se vend à 60 $, tandis que le même carton des cigarettes importées mais timbrées de marque Sportsman se vend à 100 $. Celui de la marque Supermatch, fabriqué sur place en RD Congo et timbré, coûte 85 $. Pour pallier à cette situation, l'OFIDA estime que les cigarettes ne portant pas encore de vignettes fiscales devraient être saisies. Elle affirme par ailleurs qu'une opération de saisie de ces cigarettes sera lancée dans les prochains jours à Bukavu. Broy Munganga, Radio Kapi, Bukavu.
18h10 à Kinshasa, 18h10 à Mbandaka, la suite du journal. Fin du calvaire des passagers du bateau MB Makwala ce matin. Ce bateau en détresse depuis 4 jours en aval de Mbandaka a été remorqué par un pousseur de la section riverine de la MONUC. Une naissance et de nombreux cas de maladies signalés à bord parmi les quelques 600 passagers que transportait ce bateau. L'un d'eux, Caleb Laoué, raconte les péripéties de ce voyage. Il est au micro de Jean-Michel Louboula Mopolo.
Nous remercions sincèrement la MONUC pour l'intervention qu'ils ont faite pour nous. Justement, quand nous sommes arrivés à 60 km d'ici, on a connu une panne d'hélice. C'était tombé dans l'eau et finalement, on ne pouvait rien faire. On est resté sur les sables pendant 2-3 jours. Toutes nos provisions étaient finies. Là où nous étions, c'était vraiment dans un risque très grave. Vraiment, on était tellement malades psychologiquement. Il y avait des difficultés. Surtout qu'il n'y a pas de pirogue pour sortir, aller chercher de la nourriture sans l'intervention de la MONUC. En tout cas, monsieur, je vous dis qu'il y avait tant de morts dans ces bateaux.
Clôture aujourd'hui à Kinshasa des manifestations commémoratives de la Journée internationale de la francophonie. Plusieurs activités ont été organisées à travers le monde pour commémorer cette journée célébrée le 20 mars de chaque année. En République démocratique du Congo, les activités ont été organisées sur une période de 30 jours sous le thème retenu de francophonie, paix et diversité. Quel est l'apport de la francophonie dans la vie du Congolais? La réponse avec M. Kibangula, président de la Ligue des infirmiers de l'espace francophone de la RD Congo. Il est interrogé par Thérèse Bassoudi.
Nous bénéficions d'un appui de la francophonie, et précisément de l'agence intergouvernementale qui a soutenu un projet que nous sommes en train de mettre en exécution depuis le mois d'octobre de l'année passée. Et ce projet consiste à former les infirmiers dans la nouvelle technologie de l'information, de l'éducation. L'impact est positif, bien que nous n'ayons pas encore atteint toute la République. Lorsque nous formons un groupe de personnes soignants, nous leur donnons de nouvelles techniques de soins. C'est une manière d'aller vers la population avec de nouvelles méthodes de travail. C'est déjà quelque chose de positif dans le sens que nous améliorons notre façon de travailler, de concevoir les soins et surtout les nouvelles pratiques avancées dans les soins infirmiers.
Ouvrons la page internationale, d'abord à Brazzaville. La coalition de l'opposition congolaise pour une alternance démocratique, CODA, estime que les conditions n'étaient pas réunies pour l'organisation dans le département du pool d'élections législatives partielles souhaitées par le gouvernement. Déclaration ce samedi à Brazzaville du porte-parole du CODA, cité par l'agence France Presse. Et puis, la police kényane a arrêté un ministre et deux parlementaires somaliens à la suite du pugilat jeudi dernier lors d'un débat au Parlement somalien à Nairobi. Selon l'agence France Presse, le ministre somalien du Commerce a été arrêté avec deux parlementaires, Hussein Harale et Mahalim Mahamoud Mohamed. À Londres, des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi dans le centre de Londres et devant l'ambassade américaine pour marquer le deuxième anniversaire de l'invasion de l'Irak. À Istanbul, quelques 15 000 personnes ont défilé contre la présence américaine en Irak sous des bannières « Bush assassin va-t'en ». En Suède, les manifestants étaient 300 dans le centre de Stockholm. Des manifestations étaient également prévues à Rome, Oslo et dans 9 villes d'Espagne, dont Madrid et Barcelone. Les bailleurs de fonds d'Haïti, réunis vendredi en conférence ministérielle à Cayenne, en Guyane française, ont lancé un signal d'alarme face à la fragilité de la situation dans l'île dont ils se sont engagés à accélérer la reconstruction. La communauté internationale n'a pas le droit d'échouer en Haïti. Ce serait un signal d'impuissance, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Michel Barnier, à l'origine de la conférence internationale sur la reconstruction en Haïti. Terminons à Tokyo, la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice n'a pas mâché ses mots samedi. Elle a exigé de la Corée du Nord qu'elle reprenne immédiatement les pourparlers à Séoul pour résoudre le blocage actuel sur son programme nucléaire. Mais elle a dit également douter de la volonté de Pyongyang de renoncer à ses ambitions en la matière. La Corée du Nord doit retourner immédiatement à la table des négociations si elle veut sérieusement avancer sur le chemin que nous et d'autres parties avons proposé, a-t-elle déclaré au cours de sa visite officielle de 2 jours au Japon. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie et excellente condition d'écoute sur Radio Okapi, la fréquence de la paix.